Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq. Émilie, votre choix de l'actu du jour.
MeToo, c'était il y a 4 ans, presque jour pour jour.
Mohamed, votre story du jour.
Stupeur en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni est en émoi. La reine Elisabeth est fatiguée.
Et elle ne pourra pas participer à Glasgow,
à la COP26.
On demandera à Patrick si ça a une conséquence ou pas. Mathieu, dans votre 5 sur 5 ce soir.
Ce prêtre, ce curé à Calais qui est en grève de la faim depuis 16 jours en soutien aux populations de migrants. Nous nous intéresserons ce soir à la question des mineurs isolés.
Reportage à suivre. Pierre, dans votre œil.
Vous pensez bien qu'avec la présence de Sheila, on continuera de parcourir la grande photo de Jean-Marie Perrier dans Salut les copains en 66.
On découvre trois.
Quatre. Ah oui, c'est mercredi.
C'est champagne. Ce serait Patrick, votre édito du jour.
Un électorat français fragmenté et le risque de campagne parallèle pour la présidentielle.
Autant de sujets que l'on soumet à nos invités avant de recevoir à notre table Sheila et le prodige, le pianiste prodige Lang autour d'un dîner préparé par Jean-Christophe Rizet, le chef du désormais très célèbre restaurant étoilé qui plume la lune. Il paraît que ça a un peu buzzé le fait que je me trompe dans le titre de votre restaurant.
Oui, ça fait parler. Et ça a bien rigolé surtout.
Donc c'est bien qui plume la lune et rien d'autre. Ça. Des Saint-Jacques marinés ce soir.
Oui, Saint-Jacques marinés aux agrumes avec une semoule végétale. Vous aurez des petites herbes, des petites fleurs qui viendront agrémenter votre plat.
Merci chef, à tout
Merci.
À l'heure. Mais d'abord l'édito de Patrick Cohen. Des Français de plus en plus à droite et une société de plus en plus morcelée. C'est ce que montre la dernière enquête de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique.
Oui, la Fondapol de Dominique Régnier a entrepris depuis 2 ans de mesurer le risque populiste auprès d'un vaste panel de plus de 3000 personnes avec l'Institut Opinionway. Et parmi les nombreux enseignements de cette étude, il y a, vous l'avez dit, la droitisation de la société française. C'est une tendance longue. Aujourd'hui, 37% des électeurs se disent eux-mêmes de droite. C'était moins d'un tiers il y a 3 ans, tandis que la gauche ne représente plus que 20% des électeurs. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la fracturation de ces électorats sur la nature des problèmes du pays, comme si les Français ne vivaient pas la même réalité ou dans la même réalité. Opinionway leur a demandé de choisir les 3 questions prioritaires que devrait traiter le prochain gouvernement: réduire la délinquance, le chômage, les inégalités sociales, l'immigration, l'influence de l'islam, la dette ou le réchauffement climatique. Et bien, même en faisant le total des 3 premiers problèmes, vous voyez que les écarts de préoccupation sont gigantesques. L'immigration, c'est sans surprise une priorité chez 3/4 des électeurs de Le Pen ou de Zemmour, mais pas vraiment un souci pour ceux de Macron ou de la gauche, 50 points de moins. Même chose pour l'islam, avec des écarts un peu moins grands. En revanche, les électeurs de Zemmour se fichent complètement de la question du climat, 13% de citation, et ils sont à peine plus soucieux du chômage et des inégalités sociales. Ce n'est pas clairement leur sujet. À chaque fois, près de 50 points d'écart entre les électorats qui divergent non pas sur les solutions à apporter, mais sur les problèmes à résoudre. Chacun ses priorités et ses obsessions. Le grand débat public présidentiel risque de laisser place à une série de campagnes parallèles.
Des préoccupations qui sont liées à la façon dont les Français se tiennent informés.
Oui, c'est un autre aspect intéressant de cette étude. Dis-moi comment tu t'informes, je te dirai comment tu vois la France. Par exemple, parmi les Français qui pensent que la société est de plus en plus violente, les plus nombreux en proportion sont ceux qui s'informent via les chaînes d'information continue. Tandis que les réseaux sociaux favorisent le comportement protestataire, on revient à la segmentation, à l'effet de bulle qui conforte les internautes dans leurs opinions et leur colère. Ainsi, 78% des utilisateurs quotidiens de Facebook sont tentés de s'abstenir ou de voter pour un candidat anti-système. Et 90% des habitués de TikTok ou Telegram. Vous trouvez même des chiffres effarants sur une question qui n'est pas dans le débat public, le droit de posséder une arme chez soi pour se défendre. C'est un souhait minoritaire dans la population, 21% tout de même, mais qui grimpe chez les familiers des réseaux sociaux et des images violentes, jusqu'à 57% pour les utilisateurs de Telegram.
Bonsoir Étienne Girard.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du service Société à l'Express. Vous publiez demain au Seuil le radicalisé enquête sur Éric Zemmour, dont on retrouvera les bonnes feuilles, évidemment, dans l'hebdomadaire. Donc vous êtes le rédacteur en chef du service Société, l'Express. Frédéric Potier, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, merci à tous les deux de votre présence.
Merci à vous.
Cette fondation qui publie aujourd'hui un rapport qui étudie en profondeur l'électorat, l'idéologie du polémiste, pas encore candidat officiellement, Éric Zemmour, et qui confirme l'obsession de cet électorat sur les questions d'immigration et de délinquance.
Oui, absolument. Je crois qu'Éric Zemmour, c'est le thermomètre de toutes les peurs françaises. Peur de l'immigration, peur de l'étranger, peur de l'islam, peur de l'Europe, peur de prendre le métro aussi. Peur que des personnes LGBT aillent dans les écoles. Et donc, la force d'Éric Zemmour, c'est d'arriver à concentrer toutes ces inquiétudes, toutes ces incertitudes, et d'y apporter une forme d'offre politique simpliste, radicale, très ancrée à droite et très idéologisée.
Et vous confirmez que les inégalités et l'environnement ne les intéressent pas du tout, les électeurs potentiels d'Éric Zemmour ?
Ces électeurs, non, mais les Français, oui. Et quand on regarde ce qui intéresse l'ensemble des Français, et pas simplement ces segments électoraux, on voit que l'environnement est très haut, on voit que le pouvoir d'achat est très haut, on voit que les inégalités sociales ne sont pas au bas du classement, ce qui montre qu'il y a quand même aussi des espoirs pour la gauche.
Étienne Girard, dans votre enquête Le Radicalisé, vous racontez notamment les coulisses d'une pré-campagne qui ne veut pas dire son nom. Éric Zemmour repousse toutes les suggestions de ses proches qui lui demandent de parler d'autre chose que d'immigration.
Ah oui, il dit c'est mon point fort. Il dit mais pourquoi vous voulez que je parle d'autre chose ? Toute ma candidature doit s'axer là-dessus. Si je dois gagner, c'est grâce à ça que je gagnerai. Il a eu l'intuition qu'il ne fallait pas du tout mener une campagne comme on le fait habituellement, en essayant d'être modéré, de finalement faire en sorte que ceux qui ne sont pas vraiment convaincus par un programme ne détestent pas ce programme. Non, lui, il veut cliver. Son modèle, c'est Donald Trump, assumé. C'est à moins forte raison Viktor Orban, le chef du gouvernement hongrois. Il veut à tout prix cliver, ne faire aucune concession sur ses valeurs, sur l'idée que faut une immigration zéro en France, que l'islam est incompatible avec la société française. Et ça, il tiendra ce discours-là jusqu'à la fin, parce que c'est le sens même de sa candidature.
Vous écrivez même, paragraphe 46, page 46, ouais. Dans le même paragraphe, Zemmour a un projet, il l'a confié à Emmanuel Macron, son plan est prêt, c'est-à-dire.
Eh oui, dans sa conversation avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, il le raconte dans son dernier livre, Éric Zemmour, il dit oui, moi j'ai un plan pour l'immigration. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui a dit envoyez-moi votre plan.
Mais Zemmour a dit qu'il ne l'avait pas fait.
Oui, il lui a jamais envoyé.
Ah oui, il ne l'a pas envoyé.
Il le garde pour lui, le plan. Mais le plan, il est simple. Oui, il est relativement clair. C'est expulser tous les étrangers qui n'ont pas de titre de séjour de France, c'est déchoir de nationalité les gens qui ont la binationalité et qui se rendent coupables de crimes et délits, et c'est supprimer les contrôles de constitutionnalité, l'action du Conseil constitutionnel.
Les fameuses QPC. Ouais.
Pas que. C'est toutes les décisions juridiques qui garantissent l'état de droit en France. C'est-à-dire que lui, il joue le référendum et le Parlement, s'il gagne, contre l'état de droit, les droits individuels des personnes. Ils considèrent qu'il faut remettre de la force dans l'État.
Immigration et sécurité, c'est les points communs entre les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Mais là où ils diffèrent, c'est sur le social, au point qu'on entend désormais Éric Zemmour comparer Marine Le Pen à Marlène Schiappa, entre autres gentillesse.
Je crois qu'Éric Zemmour n'a aucune chance d'arriver au second tour.
Marine Le Pen a enfermé ses électeurs dans un ghetto politique que le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien.
Il est candidat, il ne veut pas le dire, mais il l'est. Ça fait un mois et demi qu'il ne cesse, quand même, plutôt que de faire des reproches à Emmanuel Macron, de me faire des reproches à moi.
Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. elle est en décalage avec son électorat.
Frédéric Potier, c'est le retour de la fracture entre un Front National Social et un Front National Libéral ?
Oui, et quand on examine de près ces deux tendances, on voit bien que le cœur de l'électorat de Marine Le Pen, c'est un électorat plus social, plus ancré peut-être dans le nord de la France, plus attentif aux questions sociétales et plus féminin, là où ceux qui sont intéressés par la candidature de Zemmour sont plutôt des hommes, des personnes plus favorisées, plus diplômées et aussi plus radicalisées sur le plan idéologique.
Et c'est plutôt la tendance libérale de Zemmour ou celle sociale de Marine Le Pen qui pourrait l'emporter ?
Pour l'instant, on a deux blocs à peu près équidistants dans les sondages, mais nous verrons bien qui sera candidat.
En tout cas, c'est une bulle sondagière, Éric Zemmour, contrairement à ce qu'on a pu penser.
L'étude qu'on a sortie avec la Fondation Jean Jaurès et Ipsos est faite sur 9000 répondants, 1400 électeurs potentiels d'Éric Zemmour, donc on a un échantillon là qui est quand même assez solide.
Encore faut-il qu'il soit candidat. Est-ce que vous avez des informations, Étienne Girard, sur la date, le lieu, la forme que pourrait prendre la déclaration de candidature d'Éric Zemmour ?
J'ai pas d'informations certaines. Ce que je sais, c'est que le mois de novembre est très, très sérieusement envisagé pour annoncer la candidature.
Une date en particulier ?
Entre le 5 et le 15. Ça peut être le 9 novembre. Ça peut être le 11 novembre.
9 novembre, pourquoi ?
Parce que c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Ça pourrait être à Colombelles-les-Deux-Églises, d'ailleurs, cette annonce de candidature.
Parce que Éric Zemmour tente de capter l'héritage du général de Gaulle, ce qui, évidemment, fait grincer beaucoup de dents.
Il joue sur tous les tableaux, Éric Zemmour. Il essaye de capter l'héritage du général de Gaulle, donc d'être finalement le représentant de la France résistante. Et en même temps, dans tous ses discours, dans toutes ses prises de parole, il défend la France millénaire, la France même d'avant la Révolution française. Donc il veut être le candidat de toutes les droites. C'est son rêve. C'est pour ça que c'est très important pour lui, dans sa déclaration de candidature, de s'apparenter au général de Gaulle, parce qu'il parlera à une droite un peu plus respectable, une droite dont il a besoin sans doute pour aller au deuxième tour quand il sera candidat et pour gagner s'il le veut.
Bon, pour ce qui est de la France résistante, ça risque d'être un peu compliqué parce que Zemmour n'a pas seulement tenté, comme on l'a entendu encore ces dernières semaines, de réhabiliter le maréchal Pétain, il est allé aussi jusqu'à dénoncer les actions armée de la résistance. C'est une déclaration que j'ai retrouvée qui date de novembre 2018, à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre, lors d'une émission de CNews, chaîne qui refuse de laisser utiliser ces images d'Éric Zemmour sur ses plateaux. Voici donc le son de cet extrait de débat.
On a eu la guerre civile. La guerre civile,
c'est
les communistes qui l'ont commencé en exécutant des Français qui étaient collaborateurs. C'était dès 1941 et c'est les communistes qui ont poussé à la guerre civile.
Ce que vous dites là est énorme.
Non, c'est énorme.
C'est de la résistance.
Non, bah oui, c'est de la résistance.
Donc on devait rien faire.
Donc tuer des Français dans la rue
sans collaborateurs.
Et donc tuer des soldats allemands, c'est de la résistance.
Quand tue des miliciens, moi ça me gêne pas personnellement.
Je vous signale que ça a gêné tous les chefs de la résistance et le général de Gaulle y compris, qui ont condamné ces actes.
Bon, Éric Zemmour qui tente de raccrocher De Gaulle à sa condamnation des actes de la résistance, mais en réalité, il semble prendre le parti des occupants contre celui des résistants. Je suis pas sûr que l'histoire de la filiation gaulliste tienne encore longtemps debout. Qu'en pensez-vous ?
Frédéric Potier.
Oh ben c'est un faussaire de l'histoire. Je crois qu'on le voit là sur la Seconde Guerre mondiale. On le voit aussi sur l'affaire Dreyfus, puisqu'Éric Zemmour met en cause l'innocence du capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus, défendu par Zola, défendu par Clémenceau, le fameux J'accuse. Donc je crois qu'Éric Zemmour n'a peur de rien. Il n'a aucune limite. Et je crois que c'est très dangereux pour la démocratie, parce que là, ce qui met en cause, c'est l'histoire, c'est l'état de droit, c'est la Constitution. Et l'élection, c'est pas. Et la démocratie, c'est pas juste des élections. Hein. Pierre Mendès-France disait que c'était un code moral. Je crois que c'est important qu'on se repose cette question-là, un code moral. Et toutes nos institutions démocratiques, il faut les préserver de ce genre d'aventuriers.
Cette campagne qui n'est pas encore officielle, dans votre rapport, vous la qualifiez de campagne à mort, qui ne doit pas faire de quartier.
Nos dirigeants pensent qu'en refusant le conflit, ils l'éviteront. Ils se trompent. Il n'y a qu'une seule alternative. Soit nous assumons ce rapport de force géopolitique, démographique, comme nous l'avons assumé pendant des siècles, soit nous perdrons et nous serons liquidés.
Ne pas éviter le conflit, quitte à chaque déplacement, ça devient quasiment systématique désormais, provoquer des incidents, c'était le cas hier à Biarritz.
Vous avez oublié la guerre.
On est là pour s'opposer à toute cette xénophobie, cette haine de l'autre.
On ne veut pas de ce rejet, de cette haine.
Qu'est-ce que vous pensez de ce comité d'accueil ?
Des connards. On ne peut pas parler avec ces gens-là.
Je suis homosexuel et je vote pour Zemmour. Alors je les emmerde.
C'est l'annonce d'une campagne sans compromis qui assume le conflit, d'où des propositions clivantes qui doivent faire parler d'elle, comme celle d'interdire les prénoms non français comme premier prénom. Vous ouvrez votre enquête par une scène lors d'un dîner privé en juin dernier. Devant le haut gratin du patronat français, Éric Zemmour répète, va tester la proposition sur les prénoms, l'interdiction des prénoms qui ne sont pas d'origine française.
Oui, c'est avant de répéter ça devant les médias. Il a testé ça auprès de grands patrons. L'accueil a été relativement mitigé, mais il n'a pas dit que ça. Il a aussi dit que la culture arabo-musulmane est une culture qui respecte la force. C'est pour ça qu'on doit être dur avec eux. C'est comme ça qu'ils nous respecteront. Il a testé, le sel de sa campagne devant des petits parterres comme ça, de personnalités importantes, influentes.
Qui, par exemple ?
Il y avait à ce dîner Henri de Castres, qui est un proche de François Fillon. Mmh. Il y avait les deux frères de Benzmann, qui font partie des 500 premières fortunes de France. Il y avait quelques personnalités très importantes comme ça. Il en a déduit que ce qui allait le faire gagner, c'est d'aller au plus fort, de défendre la force. Moi, quand je le rencontre, bon, il m'a accordé une heure, il me dit « un chef d'État, ça doit parfois être cruel ». Voilà, donc c'est ça qui va vendre. C'est plutôt la cruauté que la faiblesse. Il est certain que c'est ça aujourd'hui qu'attend son électorat et qui le fera gagner. On parlait de De Gaulle. Moi, je suis persuadé qu'il a été gaulliste, Éric Zemmour. Dans sa jeunesse, d'ailleurs je le raconte dans un livre, il a été ce républicain souverainiste à la Chevènement Pasqua dans les années 80-90, voire début 2000, et puis il a basculé. Et là, ce discours-là, il n'y a plus une once de gaullisme dans ce discours. Il a un discours identitaire, et d'ailleurs, ça a été très peu commenté dans un de ses derniers ouvrages, celui de 2016, qui s'appelle « Un quinquennat pour rien ». Il vous l'aviez invité d'ailleurs dans C'est à vous pour en parler. Il évoque l'hypothèse de 20 millions de musulmans en France. Il dit, si demain il y a 20 millions de musulmans en France, alors il faudra instaurer une dictature. Voilà, le mot est lâché. Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'exclut pas, dans un certain scénario, de mettre en place un État autoritaire, voire une dictature.
Il y a des choses qui peuvent faire sourire, mais qui sont des faits. Dans votre bouquin, vous insistez sur le rôle, évidemment, de Sarah Knafo, sa conseillère, qui partage avec lui une sorte de détestation de Marine Le Pen. Et elle s'en prend au compte Instagram de Marine Le Pen, qui a promu ses chats, si j'ose dire. Et elle dit, quelqu'un qui aime les chats ainsi et qui les monte ne peut pas être présidente de la République.
Absolument. Et je crois que la personnalité de Marine Le Pen a une grande importance dans l'engagement politique d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que ce que me racontent plusieurs interlocuteurs, à l'avoir s'effiloché pendant le débat d'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron, ça a déverrouillé quelque chose en lui. Il s'est dit, décidément, ils sont vraiment trop nuls. Il n'y a que moi qui peux faire le job.
Donc une union entre les deux est absolument inenvisageable.
Avant le premier tour, impossible.
Non. Mais après, peut-être.
Après, pas tout à fait possible. Après, oui. Après, c'est ce qui se passera, d'ailleurs. Attendez, il y a même un troisième scénario. Alors, je ne vais pas être Cassandre, mais le troisième scénario, c'est que Emmanuel Macron peut aussi descendre. Et là, il n'est pas tout à fait exclu d'avoir un second tour, si on regarde les sondages. Hein. Éric Zemmour face à Marine Le Pen. Je ne veux pas être Cassandre.
Sauf que Éric Zemmour n'a pas l'électorat féminin.
Non, il ne l'a pas. Et il y a une autre équation et peut-être un quatrième scénario. Ah. C'est celui où ni l'un ni l'autre, ou plutôt l'un ou l'autre, aurait uniquement les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Et alors là, qu'est-ce qu'il arrive ? Politique fiction, je ne sais pas, on n'en fera pas ici. Mais ça sera un élément décisif pour cette prochaine campagne présidentielle.
Mais il est le candidat qui connaît la plus forte désaffection du vote des femmes ? Et ça, c'est clairement un problème.
Les politologues appellent ça le gender gap, c'est-à-dire l'écart entre le vote masculin et le vote féminin. Marine Le Pen avait réussi à combler cet écart par rapport à son père Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Éric Zemmour souffre du même handicap. On verra s'il arrivera à le rattraper. Mais en tout cas, à force de jouer de cette image très viriliste, très machiste, basée sur la force, ce n'est pas évident qu'il y arrive.
Ce n'est pas le seul handicap dont il souffre. Si on regarde les résultats de votre enquête, alors ce sont des résultats sûrement moins vendeurs que les sondages dont on parle qui font grimper Éric Zemmour sans cesse dans les intentions de vote. Mais 70% des Français estiment qu'il n'a pas l'étoffe d'un président de la République. 71% estiment qu'il ne donne pas une bonne image de la France à l'international. Ça aussi, ce sont de vrais handicaps.
Oui, parce que la démocratie, on vient de le voir sous vos images, selon Éric Zemmour, c'est quoi ? C'est la guerre civile. Et donc ces images de conflits, ces images de manifestations, ces images où on oppose les Français entre eux, évidemment que ça ne donnerait pas une bonne image de la France à l'international. Donc ce résultat-là n'est pas très surprenant.
Il ne croit pas en la politique, Éric Zemmour ?
Il croit dans les rapports de force, Éric Zemmour. Il ne croit pas dans les compromis. Ça l'insupporte, ça l'agace, cette habitude des politiques d'aujourd'hui de faire des compromis, de ne pas réaliser leur programme politique. Et je pense que c'est une partie d'ailleurs de son succès aujourd'hui. C'est que lui propose un projet politique de renversement total de certaines valeurs, et ça correspond à une envie de radicalité absolument virulente d'une partie de l'électorat.
C'est comme ça d'ailleurs que se termine votre texte, Frédéric Poutier. Il ne croit pas en la politique, Éric Zemmour, ce qui est quand même un incroyable paradoxe.
Non, parce que je crois qu'il ne croit pas en la délibération apaisée, constructive, qui permet de faire progresser un débat démocratique. Je crois qu'il croit uniquement, en résumé, à la guerre civile.
Étienne Girard, le radicalisé, enquête sur Éric Zemmour. C'est au Seuil et c'est à paraître demain. Il faut lire l'Express qui en publie les bonnes feuilles ou lire directement les bonnes feuilles dans l'original. Frédéric Poutier, on rappelle également que vous avez publié en septembre Pierre Mendès France, la foi démocratique, certainement plus apaisée, j'imagine.
Et constructif.
Et constructif. Vous restez avec nous. On continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous.
L'état de santé de la reine inquiète en Angleterre.
Il a suffi d'une image pour mettre tout le Royaume-Uni en émoi. Cette photo de la reine d'Angleterre avec une canne pour la première fois de l'histoire. Dans la foulée, la semaine dernière, Elisabeth II a passé une nuit à l'hôpital. Tous les Anglais sont inquiets et hier, un nouveau communiqué a provoqué une certaine stupeur. La reine ne participera pas à la COP26 qui se tient à partir de dimanche à Glasgow pour des raisons de santé.
I've been due to attend the evening reception on Monday. She will still deliver an address to the assembled delegates via a recorded video message.
It was the news we were waiting for after she pulled out of a trip to Northern Ireland last week. The palace later confirming the 95-year-old has spent a night in hospital and had preliminary tests.
That the Queen will be very disappointed. She doesn't like to disappoint people. She knows that a lot of world leaders are coming, and so she won't have taken this decision lightly.
Après avoir honoré près d'une dizaine de rendez-vous depuis le 1er octobre, Elisabeth II, 95 ans, on le rappelle, a quand même dû alléger son emploi du temps. Elle a renoncé à une visite en Irlande du Nord sur recommandation de son médecin. Elle a même découvert les joies du télétravail, puisque des rendez-vous avec des représentants étrangers ont été recalés en visio. Elle a le sourire, elle a l'air d'être en forme. Concernant la COP26, la reine serait très énervée et frustrée de ne pas pouvoir participer à ce sommet. Ce rendez-vous était pour elle un moment très important.
Next month, I will be attending COP26 events in Glasgow. The eyes of the world will be on the United Kingdom and Scotland in particular, as leaders come together to address the challenges of climate change. There is a key role for the Scottish Parliament, as with all parliaments, to help create a better, healthier future for us all.
Elle enregistrera cependant une vidéo pour s'adresser aux délégués de cette conférence sur le climat. Au Royaume-Uni, plusieurs médias expliquent qu'elle voulait prononcer un discours fort à la COP26 sur l'écologie. Elle aurait même voulu sermonner plusieurs dirigeants mondiaux sur leur manque d'investissement sur l'écologie. Un thème cher à la famille royale. Le prince Charles a lancé une chaîne sur Amazon pour sensibiliser sur le réchauffement climatique. Le petit-fils de la reine, le prince William, participera sans la reine à la COP26. Ces derniers jours, il a lui aussi interpellé les milliardaires mondiaux qui se lancent à la conquête de l'espace.
For me particularly, the idea that the space race is on at the moment, we've seen everyone trying to get space tourism going. It's the idea that we need some of the world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live. And I think that ultimately is what sold it for me, is that really is quite crucial. We need to be focusing on this one rather than giving up and heading out into space to try and think of solutions for the future.
Alors que toute l'Angleterre en parle, Patrick, est-ce que l'absence de la reine Elisabeth à la COP26 est anecdotique?
elle n'est forcément pas anecdotique pour les Britanniques, évidemment, c'est un monument national. Mais il faut dire les choses, son influence sur la marche du monde en général et sur la COP26 en particulier est limitée. Elle jouit d'aucun poids politique particulier. Sa parole est symbolique, évidemment. Ce qui pourrait arriver de mauvais à la COP26 et évidemment à la reine et aux Britanniques, c'est qu'un malheur survienne pendant le déroulement du sommet. Ça serait un trouble considérable pour la bonne marche d'un événement qui est très important, décisif et pour l'avenir de la planète. Et je n'en rajoute pas.
Merci beaucoup, Mohamed.
Petite anecdote sur la reine Elisabeth. Ce qui expliquerait sa fatigue, plusieurs médias l'ont révélé, c'est que depuis la mort de son mari, elle passerait les soirées devant la télévision jusqu'à très tard.
Oui. Ah, elle veille devant la rediffusion de C'est à vous. C'est vrai qu'on est diffusé un peu trop tard le soir. Merci beaucoup, Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. MeToo, la révolution, Émilie, a démarré il y a 4 ans.
Oui, tout a commencé avec un tweet, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est celui-là, le 15 octobre 2017, Alyssa Milano qui écrit « Si vous avez été harcelée, agressée sexuellement, écrivez « moi aussi » en réponse à ce tweet. » Et elle suivait elle-même d'un tweet aussitôt avec le fameux « MeToo ». Deux mots, pas plus, comme un code entre femmes pour dire « tu n'es pas seule ». Juste après ça, ça a été une déferlante de « MeToo » et de témoignages, notamment sur cet aveu.
Il me touchait, il me disait « tiens-toi comme ça, mais ça ». Il me disait comment m'habiller, il me disait comment bouger sur scène. Je n'avais pas le droit d'écrire. J'étais vraiment la plante verte, j'étais là pour décorer.
Sur le moment, je n'ai pas cru qu'il ait pu me frapper, puisque c'est impossible de penser quand on a partagé la vie de quelqu'un, on se dit « non, c'est pas ».
Aujourd'hui, je prends la parole pour briser cette omerta et j'ai enfin le courage de le faire.
Après ces témoignages, il y a eu les gestes, comme quand Adèle Haenel quitte avec perte et fracas la salle des Césars quand le réalisateur Roman Polanski, accusé par plusieurs femmes d'agression ou de viol, a été récompensé. Après cela, nous avons fait plus attention, nous, aux mots employés. Les médias n'ont plus empilé des chiffres, mais ont commencé à donner des prénoms, des noms, à raconter les histoires des femmes tuées par leurs compagnons. Nous en sommes déjà d'ailleurs à 77 depuis le début de l'année. On ne parle plus de crimes passionnels, on parle de féminicides. La justice s'interroge, la prescription s'allonge, les forces de l'ordre se forment à recevoir mieux les plaintes. La question des violences faites aux femmes, c'est devenu un sujet de société, un sujet politique, l'une des grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron et un sujet incontournable de cette campagne présidentielle.
Le féminisme est une lutte qui contient un principe initial d'égalité absolue entre hommes et femmes qui ne sont séparés que du fait de leur éducation respective qui prive les unes de ce qui a été donné aux autres.
Je vous rappelle la phrase de Madame Thatcher. Si vous voulez qu'une chose soit dite, demandez à un homme. Si vous voulez qu'une chose soit faite, demandez à une femme. Ça valait pour elle, ça vaut pour moi.
Je ne laisserai pas faire cette situation qui fait qu'il y a encore 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. C'est indigne.
Tant que les carrières et tant que les salaires des femmes ne sont pas les mêmes, il est normal qu'il y ait une compensation au moment de la retraite.
Les femmes donc au programme de gauche comme de droite, car dans tous les cas, il reste du chemin, même si on en parle plus. Les femmes continuent de subir des violences, tout type de violences.
Hé, ta petite robe rouge, là, j'aime bien. Vas-y, fais voir ce qu'il y a en dessous. Vas-y, réponds, petite pute. Mais si je te répondais, tu t'en remettrais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que ton désir, il me dégoûte ? Que t'es le millième à faire ça.
Glaçant comme cet autre court-métrage de H24, 24 heures de la vie d'une femme sur Arte en ce moment. Cette fois, c'est l'actrice Anaïs Desmoustiers dans le rôle d'une patineuse artistique agressée par son entraîneur. Toute ressemblance avec des personnages existants est évidemment faite exprès.
Je rentre dans ma chambre. La nuit. La laine âcre d'épices de viande grasse. Ton dîner dans ma bouche. Au matin, quand je réussis une pirouette Billman, tu dis que décidément je sais tout faire. Tu me fais un clin d'œil.
24 épisodes de 4 minutes, chacun pour raconter des scènes quotidiennes de violences vécues encore par les femmes pour que les prises de conscience se poursuivent.
Le dernier bastion de l'hégémonie patriarcale a sauté avec MeToo et la libération de la parole, mais la guerre des sexes menée par les néo-féministes n'a pour autant aucun sens ni aucune justification. C'est le postulat de l'essayiste et journaliste Tristan Bannon qui est ce soir notre invité. Bonsoir Tristan Bannon. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous, romancière, essayiste, auteur d'un ouvrage qui paraît aujourd'hui La paix des sexes. Un plaidoyer dont le titre est assez clair pour mettre fin à un combat qui refuse toute nuance, une guerre menée par une frange de féministes qui veulent, selon vous, faire scission, opposer les hommes et les femmes, ce qui n'a jamais été votre combat, Tristan Bannon, même lorsque vous avez porté plainte en 2011 contre Dominique Strauss-Kahn. Mais vous avez le sentiment que votre histoire a été instrumentalisée?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a été victime, on attend de vous une certaine parole qui doit rentrer dans un schéma qui est mis en place par effectivement, oui, des... Voilà, on les appelle les néo-féministes, ça veut tout dire et rien dire, par des féministes qui ont un discours très extrémiste et qui décident de la voie féministe moderne. Et moi, ce que j'ai voulu avec ce livre, c'est dire qu'on pouvait être féministe. Je suis féministe et je le redis ce soir, on peut être féministe sans nécessairement prôner une radicalité absolue du combat, sans décider que tous les hommes sont des monstres, qu'ils veulent tous l'asservissement de la femme, que chaque instant de notre vie quotidienne prouve que nous sommes soumises et que nous sommes des victimes de chaque moment. Et c'est ça que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut... Les hommes peuvent être nos meilleurs alliés dans ce combat-là,
le combat pour l'égalité. Ce que vous reprochez à ces féministes radicales, c'est d'avoir fondé une victimocratie, une dictature victimaire. Vous refusez-vous d'être assignée à ce statut de victime ?
Mais l'objectif, quand on a été victime, l'objectif, c'est de sortir de ça. C'est absolument de sortir de ça. On n'est pas victime toute sa vie. Moi, j'ai beaucoup de mal quand ces femmes-là me parlent en disant « Mais toi, en tant que victime, je ne suis pas victime. Et je ne me laisserai pas enfermer là-dedans. Je suis une ancienne victime. » Il ne s'agit pas de dire que ça ne fait pas partie de ma réflexion, évidemment. Mais ça fait partie de ma réflexion, comme ce que j'ai pu lire, comme les gens que j'ai pu rencontrer, comme ce que j'ai pu observer.
Ça ne me définit pas
et ça ne me définira jamais. Et je refuse d'être assignée à ça. Et il faut expliquer à toutes les femmes qui ont été victimes un jour que justement l'objectif c'est d'en sortir. Moi j'ai un cas qui me heurte particulièrement, c'est une femme qui vient avec sa fille qui a été violée et qui cherche comme ça un peu quelque chose auquel se rattacher et qui me dit, vous voyez ma fille, sa vie désormais est foutue. Mais non, en fait non. Elle a été victime, elle a plein d'autres choses à faire. Et il ne faut pas lui dire que sa vie est foutue parce que sa vie n'est pas foutue, parce qu'on a plein de choses à faire. Même si on a été victime, évidemment, il y a des choses qui vont être plus compliquées. Évidemment, il va falloir vivre avec ça et on ne va jamais complètement s'en séparer.
En cela qu'on peut considérer qu'on reste une victime au-delà de la résilience. J'imagine ce que veulent dire certaines victimes, en tout cas quand elles se définissent comme telles.
Oui, mais c'est compliqué parce qu'après, ce sont des femmes à qui on parle sur des sujets d'organisation de la vie quotidienne, par exemple, et qui disent « mais moi, je ne peux pas entendre ça puisque je suis victime ». Si, en fait, il faut s'extraire de ce statut-là. On ne peut pas régler toute la société en fonction du fait que l'homme serait un monstre, quel que soit l'homme, et que la femme est par essence une victime. Ce n'est pas possible. En fait, on vit dans une société, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, en tout cas en France, on vit dans une société qui a consacré l'égalité. Ça n'est pas appliqué au quotidien. On a les textes pour ça. Et dans le combat pour cette application des textes, les hommes peuvent être des soutiens et des alliés extraordinaires. Vous-même, vous êtes une femme, vous dirigez une émission, et il y a des hommes autour de la table.
Trop.
Et ça se passe très bien.
Ces néo-féministes, vous leur reprochez surtout de ne pas avoir apporté leur soutien à Mila.
Ah, ça, pour moi, c'est le point de bascule.
Les associations LGBT féministes n'ont pas envie de me soutenir. C'est marrant parce que c'est les associations féministes qui m'ont reproché des propos, que ce soit sexistes, transphobes, alors que jamais de la vie. C'est des prétextes. Et c'est là où je vois la lâcheté et la malveillance aussi. Souriez-moi, c'est ce que je dis à la fin du livre. Souriez-moi. J'ai ni envie qu'on me plaigne, qu'on me... Enfin, si, quelque part, c'est normal, il y a à se plaindre. Mais je veux pas qu'on me pleure.
L'affaire Mila, c'est le révélateur de l'impasse du féminisme français aujourd'hui.
En tout cas, c'est le révélateur de l'impasse d'un certain féminisme. Et pour moi, c'est le point de bascule. On ne peut pas, pour moi, se prétendre féministe et ne pas soutenir Mila. On a là quand même une jeune fille qui n'a rien fait d'illégal, absolument rien, qui se retrouve avec 100 000 menaces de mort. Je trouve que ça devrait heurter notre humanité. Et comment je l'explique? J'explique par cette frange féministe qui se dit intersectionnelle et qui au départ part d'une belle idée. L'intersectionnalité, au départ, c'est dire on peut être
en plus d'être une femme, ce qui est déjà apparemment quelque chose qui fait de nous des victimes par essence, on peut être en plus noire, homosexuelle, transsexuelle. Voilà.
Et musulmane, par exemple.
Et musulmane, par exemple. Donc, serrons-nous tous les coudes entre victimes, parce que ce n'est pas nouveau de dire qu'ensemble, on est plus fort. Sauf que le problème, ce qui est induit par ça, et c'est pour ça que moi, je dis, ça, c'est un pacte avec le diable. Parce que ce qui est induit par ça, c'est que si demain, vous êtes violée, si vous, vous êtes violée en sortant de cette émission, eh bien, vous n'avez plus qu'à espérer, si vous voulez le soutien des féministes, que votre violeur ne tombe pas dans l'une des cases victimaires qui fait partie du pacte. Et c'est ce qui se passe avec Mila. C'est-à-dire que Mila, ses agresseurs, ils sont islamistes, donc musulmans. Donc, on ne dit trop rien parce qu'il faudrait pas... Ils sont potentiellement victimes, on ne dit trop rien. Il ne faudrait pas potentiellement vexer nos frères de combat victimaires. Et en plus, alors à titre personnel, je trouve ça particulièrement insultant pour les musulmans. Parce que j'ai beaucoup d'amis musulmans, ils ne se sentent pas vraiment concernés par les propos islamistes. Mais bon, ça, c'est peut-être une petite différence qu'il faudrait leur expliquer.
Votre combat pour un féminisme nuancé vous amène à être d'accord avec Alain Finkielkraut, ce qui peut surprendre. Mais quand il dit « l'ordre patriarcal est derrière nous », il a raison. Il y a toujours du sexisme, mais il n'y a plus de sexisme systémique.
Exactement. Il ne dit pas que ça. Hein, parce que
oui,
on
va y revenir dans un instant.
Je suis franchement pas d'accord
juste
avec
juste sur l'ordre patriarcal.
Voilà, c'est-à-dire que ces femmes souvent dénoncent un sexisme systémique. Et les mots ont un sens, un sexisme systémique, c'est un sexisme qui serait institutionnalisé, qui ferait que des endroits, des fonctions, des positions seraient interdites aujourd'hui en France aux femmes. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, en France, légalement, les femmes peuvent tout faire. Et légalement, aujourd'hui, quand une femme est moins bien payée à poste égal qu'un homme, c'est illégal. Donc, à nous
tous... Il
n'y
a plus de loi sexiste.
Il n'y a plus de loi sexiste. La dernière est tombée en 2006. Et le seul sexisme systémique qui demeure aujourd'hui, il est religieux. C'est le seul endroit, la religion, où il y a une institutionnalisation d'un sexisme.
Là où vous n'êtes pas d'accord, par exemple, entre autres, avec Alain Finkielkraut, c'est quand il évoque la galanterie qui serait, je résume un peu, mais que la galanterie... Comment ?
Que
la galanterie à la française est un devoir pour l'homme dominant. J'ai résumé un peu son propos. Et vous dites que historiquement, pour il y a deux siècles, oui, il peut avoir raison, mais que c'est totalement différent aujourd'hui, que son analyse n'est pas contemporaine.
C'est très compliqué d'expliquer que le galant des années 2020, celui qui va vous attraper le paquet de céréales au supermarché parce qu'il est trop haut, celui qui va vous tenir la porte quand vous entrez dans le métro, celui qui va tirer la chaise au restaurant... Je trouve ça compliqué de dire qu'il fait ça parce qu'il veut asseoir sa supériorité sur vous. Je trouve ça très compliqué. Je comprends qu'il y a des années, c'était le cas. Mais M. Finkielkraut n'est pas si vieux et je ne suis pas si jeune. Donc il y a quand même quelque chose qui me pose problème. Mais c'est une méthode qui est très souvent employée. D'ailleurs, moi, quand je m'oppose à certaines de ces féministes, elles me disent à chaque fois « on porte en nous des années de
patriarcat ».
De patriarcat. Mais oui, mais enfin, d'abord, on ne les a pas vécues, souvent. Et ensuite, on en est revenu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, grâce au combat de toutes celles qui nous ont précédées, depuis au lobe de gauche et encore après, on est dans une société qui consacre l'égalité. Et évidemment qu'il demeure des problèmes de sexisme qu'il faut vouloir combattre, mais qu'on doit tous vouloir combattre ensemble. On ne va pas rétablir une guerre des sexes qui n'a plus de raison d'être.
Vous reprochez aux néo-féministes de se perdre sur le terrain de la vertu, d'empiéter sur la justice en l'incitant à pratiquer une présomption de véracité, autrement dit, de croire les femmes quand elles disent qu'elles ont subi un viol. Pourtant, vous avez attendu 8 ans avant de porter plainte contre Dominique Strauss-Kahn, parce que quand vous racontiez ce qui vous était arrivé, justement, on ne vous croyait pas, on vous traitait de menteuse, on vous disait que ça n'aboutirait pas. Vous n'auriez pas aimé qu'on sacralise, qu'on vous croie tout de suite ?
Alors d'abord, plusieurs choses. Avant que je porte plainte, on ne m'a jamais traitée de menteuse. C'est bien d'ailleurs ce qui m'a choquée au moment où j'ai porté plainte, c'est que tout d'un coup, à partir du moment où ça devenait public, l'opinion se retournait. Mais très honnêtement, pendant 8 ans et demi, il n'y a pas une personne à qui j'ai parlé de ce qui s'était passé, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans des émissions de télé, en tout cas une émission de télé.
À partir du moment où vous avez porté plainte à la police,
c'est à partir du moment où j'ai porté plainte, où chacun a eu son opinion et que certains ne m'ont pas cru. Après, non, très honnêtement, non, je n'aurais pas aimé qu'on sacralise ma parole. J'aurais aimé qu'on la respecte. Et en ça, j'ai trouvé que MeToo était quelque chose d'exceptionnel parce que tout d'un coup, on respectait la parole des plaignantes. Mais entre respecter la parole des plaignantes et sacraliser cette parole et condamner la personne qui est accusée uniquement du fait qu'une jeune femme porte plainte, il y a quand même un gap qu'on ne peut pas décemment, dans un état de droit qui a quand même tout construit autour de la présomption d'innocence, qui est quand même quelque chose qui est très important dans notre droit, c'est au fondement de notre Constitution, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un droit pour tous les Français et puis un autre, à côté, pour les femmes qui dénonceraient ou des viols, ou des tentatives de viol, ou des agressions sexuelles. Et dans ce cas-là, la charge de la preuve serait inversée. Et à ce moment-là, ça serait à la personne accusée de prouver qu'elle n'a pas commis l'infraction ou le crime. C'est impossible. C'est rompre l'égalité de tous devant la loi et ce n'est pas souhaitable. Après, moralement, je le comprends, puisque la présomption d'innocence, de fait, sauf parfois des coupables.
Des agresseurs.
Bien sûr.
Tristan Bannon, La paix des sexes, ce n'est pas la morale qui fait justice, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci cher Tristan, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Bellier. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
On me jette ses feuilles. Une enquête du Conseil scientifique nous apprend que 20% des lits sont fermés dans les grands hôpitaux publics.
Un lit sur cinq, faute de personnel. Les lits sont là, hein, mais pas les effectifs. Alors n'y voyez pas un effet du pass sanitaire, pas du tout, à peine un effet de la pandémie. De la fatigue chez les personnels, des burn-out, une crise des vocations aussi. Iban Raïs et Anaïs Recouli sont allés rencontrer le professeur émérite André Grimaldi de la Pitié-Salpêtrière. C'est l'un des fondateurs du collectif Interhôpitaux. Il rappelle que cela fait des années qu'on alerte sur la situation.
Moi, je ne suis pas étonné. Ça fait tant d'années qu'on le dit, qu'on ne peut pas traiter la médecine comme une marchandise.
Ce qui vous gêne, c'est que l'hôpital soit géré comme une entreprise, en fait, comme une start-up.
Mais oui, c'est comme une entreprise. D'ailleurs, le vocabulaire a changé. On ne dit plus être dévoué, on dit travailler à flux tendu. Bon, on parle de gain de productivité. Donc, on parle de process, on parle de business plan. On ne dit plus qu'on a un projet médical, mais qu'on a un business plan. Donc, les cliniques, elles se réadaptent. Elles font de la chirurgie de l'obésité parce que c'est rentable.
Ça, vous le déplorez.
La séance de dialyse, c'est rentable. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait des usines à cataracte ou des usines pour faire la dialyse. Par contre, ça ne peut pas être un modèle du système de santé.
Alors certains craquent, quittent l'hôpital. Un exemple dans Libération ce matin, selon l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 4000 infirmières sont inscrites à Pôle emploi dans la région, espérant trouver un travail de l'autre côté de la frontière, en Suisse ou en Allemagne, où l'activité est mieux rémunérée. Conditions de travail, reconnaissance, regardez, écoutez ces sages-femmes et infirmières qui s'éloignent de l'hôpital.
On agit un peu à la chaîne. Les soins d'hygiène et de confort sont faits aussi à la chaîne. Et c'est pas pour ça qu'on a signé.
Je sens que ça va pas durer éternellement si ça reste dans les mêmes conditions.
Je ne pensais pas changer de métier un jour, vraiment pas. Et à un moment donné, il a fallu vraiment que je me pose les bonnes questions et que je fasse en sorte le deuil de ma vocation.
J'ai pris du recul et je préfère me préserver justement de rien de ce burn-out qui nous guette tous dans ce milieu-là.
Alors, il y a eu de l'argent, il y a eu le Ségur de la santé, notamment 10 milliards d'euros pour les hausses de salaire, par exemple, insuffisant pour le professeur Grimaldi qui publie un manifeste pour la santé à l'approche de la présidentielle. Il s'agace même de voir le ministre de la Santé rejeter la responsabilité sur ses prédécesseurs.
Le comble, c'est que Olivier Véran, qui était député dans le quinquennat précédent, a voté toutes les restrictions. Et en 2018 encore, on a voté une baisse des budgets. On a diminué les tarifs de remboursement de la sécurité sociale de 0,5%. Alors les mêmes font comme si c'était nouveau, on ne peut pas tout faire, mais oui, mais c'est eux qui sont responsables de cette politique-là.
Gérald Darmanin envoie un médiateur à la rencontre du prêtre en grève de la faim à Calais.
En soutien aux réfugiés, le père Philippe Demester, aumônier du Secours catholique pour le Pas-de-Calais, indigné de la mort d'un jeune migrant de 20 ans, écrasé par un camion après avoir chuté de la remorque. Avec deux associatifs, ils se sont installés dans l'église Saint-Pierre de Calais et ont entamé une grève de la faim il y a 16 jours maintenant. Écoutez justement le père Philippe Demester ce matin, il expliquait encore sa démarche.
Parce que cette condition qui est réservée aux exilés, pour moi, est parallèle à ce que l'on vit concernant le mal-logement. On traîne décennie après décennie des problèmes qui ne sont jamais résolus. Donc, pour moi, c'est une façon de signifier qu'il y en a un vrai ras-le-bol de vivre cette répétition du même depuis déjà plusieurs décennies et qu'il est temps de dire en tant que républicain, en tant que citoyen, que ce qui se vit ici est inadmissible, que c'est inhumain.
Après 16 jours de grève de la faim, donc, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi d'une médiation. C'est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en personne qui est allé à la rencontre des militants aujourd'hui. Camille Schmitt était sur place pour cet à vous.
C'était un moment d'échanges fructueux avec cette idée qu'il y a des situations difficiles à prendre en charge et pour cela à trouver les meilleures solutions. Il est important que les personnes qui aujourd'hui s'engagent avec grande humanité trouvent avec nous la solution pour que puissent poursuivre leur combat d'une autre manière que celle de la mise en cause de leur santé.
Encore un peu flou tout ça. Didier Lesky, le directeur de l'OFI, rencontrera à nouveau les grévistes de la faim demain.
Autour du sort des migrants, on s'intéresse ce soir à la question des mineurs isolés.
Oui, ceux qu'on appelle des mineurs étrangers isolés ou encore mineurs non accompagnés. Ils seraient entre 16 et 40 000 selon les estimations. On s'y intéresse avec un autre genre d'acteur de la solidarité ce soir. Patrick Auménil, sous Jumièges, près de Rouen, que Louis Amar et Audrey Payas sont allés rencontrer. Cet agriculteur, éleveur, producteur de fromage tend la main aux mineurs non accompagnés.
Depuis 2018, Patrick Sadone héberge des mineurs isolés en attente de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. En 3 ans, il en a aidé 45. Certains sont même devenus ses apprentis ici dans sa chèvrerie. C'est le cas de Mamadou, 17 ans et demi, originaire de Guinée-Conakry.
On fait des fruits, on fait de la transformation de fruits, on fait les fromages, on traite les chèvres. Bon, il y a beaucoup de travail manuel.
Ça me plaît beaucoup. Oui, ça me plaît. Pour fabriquer les fromages, pour s'occuper des animaux, ça me plaît.
Donc tu voudrais rester en France pour faire ce métier?
Ah oui, oui, ça me plaît à rester en France pour faire ce métier-là, oui, c'est ça qui est mon rêve, oui.
Et puis au fur et à mesure, ils prennent conscience qu'ils sont capables de faire des choses. Et du coup, ils repartent chez moi généralement avec une confiance en eux qu'ils n'avaient pas quand ils sont arrivés.
Alors il faut comprendre la problématique de ce dossier. Mamadou affirme avoir 17 ans. En 2018, il est parti de chez lui en Guinée. Il a traversé une partie de l'Afrique, Mali, Niger, Libye, arrivé en Europe par l'Italie, en France via Vintimille et Nice. Et puis après Paris et Rouen, il est arrivé à la ferme de Patrick. Ce qui le protège aujourd'hui, c'est son statut de mineur. Ça le rend inexpulsable. Sauf qu'il faut savoir que Mamadou a été déminorisé. Un test osseux lui donne entre 24 et 34 ans. La méthode même du test osseux étant extrêmement controversée, jugée peu fiable à ces âges-là. Regardez.
Je n'arrive pas à dormir bien parce que, bon, chaque jour, il y a une nouvelle convocation qui me dit, bon. Et puis, ils ont dit de faire test des os. Encore, j'ai fait test des os. Bon. Ils ont dit, j'ai 29 ans. Là. Vraiment, ça me. Je ne sais pas quoi dire, mais ça me touche beaucoup.
Les tests osseux, il faut qu'on arrive à dénoncer ça. C'est inadmissible. C'est une honte d'utiliser cette méthode pour prendre une décision qui est si lourde de conséquences pour ces jeunes. Mamadou. On sait quel âge a sa mère. Hein, sa mère, elle a, quand il est né, elle avait 17 ans. Donc si l'hypothèse haute qui a été fournie par le spécialiste dit vrai, ça veut dire que Mamadou, il a le même âge que sa mère. Et puis si on prend l'hypothèse basse, donc 24 ans, ça veut dire que Mamadou, quand il est né, sa mère avait 10 ans. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Enfin, c'est complètement anormal que ça se passe comme ça.
Alors évidemment, au-delà du reportage, du témoignage, c'est une question politique que celle des mineurs isolés. Alors à Patrick, Louis Amar a bien sûr posé la fameuse question Zemmour.
Quand vous entendez Éric Zemmour expliquer que les mineurs isolés sont tous des voleurs, tous des violeurs, tous des assassins, quelle réaction ça provoque chez vous?
Je lui dis qu'il devrait en héberger quelques-uns chez lui. Hein, comme ça, il saurait de quoi il parle. Hein, bon, ça ne m'intéresse pas plus de parler de ça. En plus, c'est des gens dont on a besoin. De toute façon, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour travailler, ils sont là pour s'intégrer par leur travail. Et c'est des gens qui bossent.
Un dernier mot pour évoquer la situation de Mamadou. Est-ce que vous croyez qu'il va s'en sortir?
J'ai aucun doute là-dessus. Mamadou va s'en sortir parce que on est nombreux à l'aider. Mamadou est mineur, il a droit à une prise en charge. Il l'obtiendra.
Elle vient d'où toute cette émotion?
C'est surtout le sentiment d'injustice qui frappe ces enfants-là.
45 mineurs isolés sont passés par la ferme normande de Patrick au Ménil sous Jumièges. Il y a aussi quand même des Français dont le sort de ces réfugiés qui sont intéressés à ce sort des réfugiés, pas forcément sur la même ligne qu'Éric Zemmour, dans ce débat de droitisation du pays aussi.
Ça, c'est une évidence. Mais si un jour Éric Zemmour arrive au pouvoir, ce débat, on l'aura presque plus. Parce que lui souhaite sortir de tous les engagements internationaux qui empêchent d'expulser des personnes. Donc le caractère inexpulsable des mineurs, il n'existerait plus. Donc si Éric Zemmour est élu président de la République, il n'y aura même plus de test osseux parce que quelqu'un de 15 ans pourrait être expulsé de France.
Frédéric Potier, un mot?
Non, je crois que tout a été dit. L'état de droit n'est visiblement pas ce qui intéresse le plus avec Zemmour.
On termine ce 5 sur 5 en parlant de détenus en résidence surveillée.
Oui, en fait, j'aurais pu, Babette, vous parler des bracelets électroniques français. Lundi, il y a une panne de 5 heures qui a affecté leur fonctionnement. Alors seulement, les personnes condamnées n'étaient pas au courant. Du coup, a priori, c'est sans conséquence, on attend de suivre. Non, moi, je voulais vous parler de cet Albanais de 30 ans qui vit en Italie. Il est condamné, assigné à résidence. Il s'est présenté au commissariat de sa commune près de Rome, affirmant ne plus parvenir à faire face à la cohabitation forcée avec son épouse. Je veux aller en prison, ma vie domestique est devenue un enfer. Alors le capitaine des carabiniers a simplement expliqué que n'étant pas chez lui, l'individu a été arrêté pour violation de son assignation à résidence et transféré en prison comme il le voulait.
Comme il le souhaite. Merci pour cette bien belle histoire, Mathieu.
À la peine du ménage.
Va enchaîner là-dessus.
Imaginez les débats à la maison là.
Ah oui, voilà. En regardant. Je pensais qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont du coup signaler. C'est bien simple. Voilà, je veux répondre par des faits. Aucune autre artiste féminine française n'a vendu autant d'albums dans le monde, 85 millions, dont quelques rois mages.
Oh là là, ça va.
Sheila, c'est 60 ans d'une carrière unique, des yéyés au disco, en passant par la pop, le rock, parfois envers et contre les critiques, ou envers et contre des journalistes, tendance miso, ascendant mufle.
Vous avez bientôt fini de vous amuser comme ça.
Vous savez, Sheila, que pour devenir actrice de cinéma, il faut savoir, entre autres, montrer ses jambes.
Vous croyez que c'est vraiment utile?
Cette héroïne, vous ne pouvez pas savoir si elle ressemble, par exemple, à Sissi ou à Bécassine, disons, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter pour vos frêles épaules? Quand on parle de vos chansons, on dit, et c'est gentil, c'est agréable à entendre, est-ce que vous aimeriez défendre des textes plus consistants?
J'aime bien les chansons que j'enregistre, et pour le moment, je ne vois pas pourquoi je changerais.
Bonsoir Sheila.
Bonsoir, ça va?
Ça va bien, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de l'édition de luxe de votre 27e album, venu d'ailleurs. L'album était sorti le 2 avril dernier, il sera disponible à partir du 29, on est le 20...
Le 27, c'est dans
27
deux jours.
Dans deux jours.
Et là, il y a 4 chansons nouvelles dessus.
Exactement.
Et puis des remixes.
On voyait ce journaliste qui n'est vraiment pas aimable. Hein.
Oui, après, c'était
l'époque. Ça a changé quand même.
C'était l'époque.
Oui, c'était l'époque. Non, mais c'est vrai. Ça a changé, oui. Je pense je suis beaucoup moins bécassine, si vous voyez ce que je veux dire.
C'était l'époque, mais sur le moment, vous le prenez mal ou vous dites justement à cette...
Non, j'étais maintenant, mais regardez comment je suis. J'étais tellement gênée. Vous savez, dans ces moments-là, moi, j'étais une gamine. Hein, donc... on ne sait pas quoi dire, on essaie de ne pas dire de conneries et de voilà quoi. Bon.
Mais vous avez votre revanche, hein, parce que ça fait 60 ans que vous tenez bien la.
Ouais, ça fera 60 ans l'année prochaine. Donc, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 60 ans? Parce que en réalité, tu vois pas le temps qui passe, quoi. C'est terrible.
Vous avez 40 ans dans votre tête, toujours.
Oui. Je suis en pleine forme.
Et j'aime bien parce que vous dites que je serai là jusqu'à 105 ans au moins.
Non, 105 ans, c'est ma grand-mère. Mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, ça saute des générations. Donc ma maman est partie plus tôt. Moi, je pense que bon, voilà. Juste
donc
pour
vous
emmerder.
Êtes là.
Non, juste pour emmerder le monde en plus.
Ah, vous voulez rester là pour emmerder le monde?
L'idée me plaît beaucoup.
J'aime bien. On va emmerder le monde au moins ensemble jusqu'à 20h50.
D'accord.
Cherchez-la. Laissez-moi juste le temps de remercier Tristan Bannon pour La paix des sexes aux éditions de l'Observatoire. Je vous le recommande, Sheila. Il est formidable. Merci, cher Tristan.
Merci à vous.
Frédéric Potier. Qui devient Eric. Aujourd'hui paraît le dossier Zemmour, idéologie, image, électorat en ligne sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et Étienne Girard, le radicalisé, enquête sur Eric Zemmour, qui paraît demain au Seuil. Et les bonnes feuilles dans l'Express. Sheila, on emmerde le monde dans une seconde. Il y aura le vu, l'œil de Pierre, la story média de Mohamed Bouefsi et le dîner avec le prodige du piano Lang Lang. On va jouer avec lui, vous allez voir. A tout de suite.